retour sur les assises de l'ESS, l'économie sociale et solidaire, deuxième édition à Digne-les-Bains. Retrouvez les interviews réalisées au Palais des Congrès par l'équipe de Fréquence Mistral. Patricia Granet-Brunello, maire de Digne-les-Bains, présidente de Provence-Alpes Agglomération, Marc Chapuis, préfet des Alpes de Haute-Provence, et Agnès Rossi, conseillère régionale déléguée à l'ESS, Ouraou Adil, directeur du pôle enfance 04, Gilles Ponce, directeur de Cap Emploi 04, Rémi Charpie, président de la Mutualité française 0405, Daniel Simonato, délégué régional à l'Union régionale des sociétés coopératives PACA et Corse, Nadège Gatonou, directrice SIC Étoile du Verdon, Jean Tripodi et une partie de son équipe pour Cœur Lavande, Josiane Priam, présidente de la Ligue contre le cancer, Gérard Baumel, maire de Serest pour Sorénis, Chantal Verrouille, présidente de la Fontaine de l'Ours à Auzé, et enfin un micro-trottoir. Reportage réalisé par Odile Frison, Nathalie Bagari, Chris Alessandri pour Fréquence Mistral. Patricia Granet-Brunello, aujourd'hui, donc de belles assises de l'économie sociale et solidaire.
Oui, les deuxièmes assises de l'économie sociale et solidaire à l'initiative de la commune de Digne et de mon premier adjoint Francis Kuhn et de mon conseiller Jérôme Martinez, donc qui ont porté ça l'année dernière, qui ont porté ça cette année avec une réussite vraiment attendu et on en est très fiers. Et puis la remise des prix, là on l'a vu par rapport à des initiatives superbes sur ce département des Alpes de Provence. Et donc voilà, on a vu tous les enjeux importants de l'économie sociale et solidaire sur le territoire basalpin, sur Provence-Alpes agglomération, hein, puisqu'on a un fort taux de personnes qui travaillent au sein de l'ESS ici. Je disais aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'échelon de la montagne, du comité de massif, l'ESS aussi est très très porté, très très bien porté. Et donc il y a une superbe dynamique et qu'il faut pouvoir poursuivre. Si ce n'est que peut-être l'année prochaine, les troisièmes assises, peut-être une autre commune du département devrait les recevoir, puisque tout le département est concerné et nous on est prêts à les accompagner parce que voilà, je pense qu'il faut partager. L'ESS c'est ça, c'est ensemble et collaborer. Et donc moi je lance cette demande aussi de pouvoir le délocaliser et ensemble et de bien le porter.
Quelques mots sur les prix, les lauréats. Donc il y a eu Sorénis de Serest.
Ah oui, ça c'est, on a envie de rencontrer les porteurs de projets parce que je pense que c'est des choses à reproduire sur tout le territoire, l'intergénérationnel et une structure comme ça qui répond aux besoins. Et on le sait, nous, d'autant plus que il faut évoluer, il faut vieillir, et il faut vieillir bien et rester dans des environnements agréables et qui soient proches de du domicile. Et l'intergénérationnel comme ça pour se bien vieillir, moi, ça a fait énormément écho et je veux rencontrer Sorénis pour voir si on peut reproduire ça à nos échelons, à nous.
Marc Chapuis, préfet des Alpes d'Haute-Provence, et les assises de l'ESS, un événement auquel vous teniez vraiment à assister, vous êtes là.
Oui, un événement important, organisé pour la deuxième année consécutive à Digne, un événement qui rassemble tous les acteurs de ce qui représente environ 20% de l'emploi salarié dans le département, c'est dire son importance, et avec un florilège d'activités et d'acteurs qui aujourd'hui se réunissent, avec aussi des belles histoires qu'on a vues de projets qui font vivre le territoire et qui mettent l'humain au cœur du projet. Un projet à vocation économique, mais un projet aussi à vocation territoriale et encore une fois qui met l'humain au centre.
Monsieur le préfet, l'ESS est-elle suffisamment connue, largement connue du grand public d'après vous ?
Alors elle est reconnue au plan institutionnel puisqu'il y a maintenant 10 ans une grande loi fondatrice, la loi Hamon sur l'économie sociale et solidaire a été approuvée, mais il est vrai que ça reste un peu virtuel pour beaucoup de gens, savoir qu'est-ce qu'on met derrière l'ESS. Eh bien on met derrière des grandes sociétés coopératives, aussi des grandes banques mutualistes, des assurances et aussi très grand nombre de projets individuels qui sont portés par des acteurs engagés dans leur commune. Engagés aussi dans l'action sociale, mais à vocation économique. Encore une fois, ce que j'ai pu dire ce matin, c'est que ce qui serait intéressant, c'est qu'on arrive à incarner ce mot un peu virtuel d'économie sociale et solidaire au travers de belles histoires. On a vu ce matin des très belles histoires sur l'habitat intergénérationnel, sur ce qu'on appelle l'habitat inclusif, qui permet à des personnes porteuses de handicap de vivre chez elles avec d'autres personnes et d'être accompagnées par des services spécialisés. Et on voit tout le potentiel de développement de ce type de solution dans nos territoires. Je crois beaucoup au développement de l'habitat inclusif pour permettre à des personnes de vieillir pas seules, mais de vieillir avec d'autres personnes et tout en conservant son autonomie.
Eh bien, bonjour, Agnès Rossi, conseillère régionale déléguée à l'économie sociale et solidaire pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Quand j'ai reçu cette délégation à la région, j'avais pas vraiment la compréhension de ce que ça portait. Et j'ai découvert des personnes, des hommes, des femmes qui travaillent, qui portent des projets humains, qui vont créer de l'innovation sociale, qui vont répondre à un besoin social et sociétal des territoires. Et ce sont toujours de belles entreprises qui sont parfois toutes petites, mais qui vont irriguer nos territoires et qui vont permettre d'avoir cette vision humaniste et de porter un bien-être dans l'entreprise avec, on va dire, un développement économique, on n'oublie pas, mais on est dans une économie différente, mais qui peut montrer beaucoup de choses aux autres entreprises du monde, on va dire, habituel de l'économie.
Quel impact une journée comme celle-ci, d'après vous, quelles sont les réactions que vous avez? Et vous-même, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous anticipez?
Alors les réactions, bon, j'ai pas encore fait le tour complet, mais ce qui est intéressant surtout, c'est que des acteurs qui travaillent sur souvent des domaines qui sont très restreints rencontrent d'autres personnes et voient qu'il y a possibilité d'avoir des coopérations. On peut parfois monter un projet quand on regarde l'exemple du prix régional qui a été attribué à Sorénis, à l'association Sorénis, sur de l'habitat intergénérationnel, mais qui va bien au-delà. Cette association a pu porter et a travaillé et à partager avec d'autres acteurs. Donc je pense que ce type de salon est un salon professionnel, un salon de l'économie sociale et solidaire, et surtout c'est de l'échange, de la rencontre et de la connaissance de ce qui se fait. Et c'est un beau moyen de faire connaître et d'accroître l'impact que peut avoir l'économie sociale et solidaire. Je le rappelle, sur le territoire des Hautes-Alpes et des Alpes de Haute-Provence, c'est à hauteur de 20% de l'emploi privé.
Je suis Adil Ouraou, directeur du Pôle Enfance 04 de l'association Koala. Koala est une association d'envergure nationale qui intervient dans le champ de l'entraide et de la solidarité, qui compte environ 5000 salariés sur 51 départements, 52. Une association qui est purement orientée sur la solidarité dans divers champs. Le champ de l'accompagnement social, du médico-social, de l'inadaptation sociale des enfants et adolescents. Et mon activité, en tout cas pour ce qui me concerne, dans le territoire 04, c'est la protection de l'enfance. C'est un champ assez large, un champ qui est extrêmement passionnant, intéressant et qui tend à être connu de tous. C'est une activité extrêmement intéressante, voilà, pour tous nos enfants dont on a la responsabilité au quotidien. Voilà, c'est pour ça que je voulais un petit peu faire un petit clin d'œil à tous ces jeunes et tous ces professionnels qui œuvrent quotidiennement.
Vous faites de l'accompagnement social et c'est un véritable rempart contre l'exclusion.
Tout à fait, oui. Effectivement, cette association a des valeurs très fortes et des valeurs qui se veulent justement pour lutter contre tous les déterminismes sociaux, ethniques, économiques et qui se veut vraiment être dans une volonté, voilà, de soutenir tous nos concitoyens qui se retrouvent sur le bas-côté, autant adultes, enfants, personnes en situation de handicap, personnes vieillissantes. Voilà le cœur des valeurs de cette association.
Comment vous rencontrez ces personnes-là?
On va dire on a plusieurs cas de figure. Moi, je vais peut-être vous parler plutôt de la protection de l'enfance. La protection de l'enfance, on intervient dans le cadre de l'article 375 du Code civil relevant d'assistance éducative et dans le cadre de l'ordonnance 45 qui a été réformée dernièrement, qu'on appelle désormais le CJPM, Code de justice pénale pour mineurs. Donc les enfants dont on s'occupe, ils sont pour la majorité orientés par les services de l'aide sociale à l'enfance du département en lien avec les juridictions, juge pour enfants, tribunal pour enfants, le TPE. Donc on a une ordonnance de placement qui nous est attribuée et nous sommes le service qui exerçons ce mandat qui peut se décliner en diverses modalités d'accompagnement. Et ici, nous, sur notre département, on a la chance, oui, effectivement, la chance de travailler avec plusieurs modalités d'accompagnement. Donc Tremplin 04 met en place du placement à domicile. Donc c'est des enfants qui sont maintenus dans le milieu naturel. Les équipes de travailleurs sociaux interviennent auprès des familles et il y a un travail qui est fait et en même temps sur l'enfant, sur les besoins fondamentaux de l'enfant et sur la parentalité pour maintenir un maximum l'enfant dans son milieu naturel. Après, on a de l'internat, du placement classique lorsque l'enfant est en danger dans sa famille, maltraitance. Il y a une mesure de protection qui est mise en place. On a effectivement aussi de l'accompagnement jeune majeur. Jusqu'à 21 ans, on a la possibilité d'accompagner. On a de la formation professionnelle aussi pour les enfants qui sont dans le décrochage scolaire avec des formations, notamment en hôtellerie, maintenance des bâtiments, de la cuisine. Et c'est vraiment des actions de médiation fortes pour nous puisque on ne croit pas à l'assignation et à l'échec permanent. Donc l'échec, c'est simplement un moyen de passer le cap. On a un centre parental aussi, on accueille des mamans qui sont placées, qui sont mineures, enceintes, et il y a un travail qui est fait vraiment sur la parentalité et puis sur l'enfant jusqu'à l'âge de ses 3 ans. On a la possibilité d'accompagner tous ces processus d'autonomisation avec des modalités. On a un dispositif aussi qui accueille des jeunes en situation de jeunes migrants, qu'on appelle des mineurs non accompagnés. On a des dispositifs mis à l'abri de ces jeunes quand ils arrivent sur le territoire et des dispositifs, une fois que la minorité est reconnue, à ce moment-là, ils deviennent sous la tutelle de l'État, du département. C'est en même temps une autre modalité d'accompagnement.
Et pour terminer, que pensez-vous d'une journée comme celle-ci? Pourquoi vous êtes venu?
Excellent, moi, ce genre d'événement, parce que ça vient mettre un petit peu en lumière cette activité qui se fait dans l'ombre. Et je regrette que les enfants n'aient pas pu y être associés, et les professionnels aussi. On a beaucoup de représentations sur ces jeunes qui sont dits placés, en foyer, etc. Il y a toute une sémantique autour de cette population. J'aurais aimé qu'ils soient là pour parler un petit peu concrètement de leur quotidien. Voilà, je pense pas avoir perverti leur parole, c'est des jeunes qui tendent à être connus sur tous leurs aspects positifs dans le quotidien, voilà, et les professionnels également aussi.
Gilles Ponce, je suis le directeur du Cap Emploi des Alpes de Haute-Provence. Donc le Cap Emploi, c'est une structure privée, associative. De partout en France, dans les départements, vous avez un Cap Emploi. Et l'objectif du Cap Emploi est double. Un, c'est l'accompagnement vers l'emploi des personnes en situation de handicap, principalement inscrits comme demandeurs d'emploi au Pôle emploi. Et deuxièmement, nous accompagnons les salariés et les agents des fonctions publiques sur leur maintien dans l'emploi. Donc l'objectif, c'est de faire un accompagnement durable de tout salarié, de tout travailleur, travailleur indépendant compris, tout travailleur indépendant, de tout salarié, de tout fonctionnaire en situation de handicap. L'objectif, c'est de faire en sorte que sa situation de handicap ne soit pas un frein à l'activité professionnelle. Donc ça fait depuis la loi de 87 que ce service existe dans le département depuis 1994 et nous réalisons donc des accompagnements vers l'emploi en complémentarité du Pôle emploi. La complémentarité du Pôle emploi s'est renforcée depuis 2022. Maintenant, l'équipe de Cap Emploi est intégrée dans les locaux des agences Pôle emploi de Manosque et de Digne. On intervient aussi sur Barcelonnette et nous avons mis du personnel à disposition des locaux de Pôle emploi et nous avons formé notre personnel au système d'information de Pôle emploi. Donc tout se traite avec les collaborateurs de Pôle emploi. Donc l'objectif, c'est bien de rendre service le plus adapté possible, le plus adéquat possible en compensation du handicap aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Ce sont donc des personnes qui sont soit reconnues travailleurs handicapés par la maison départementale des personnes en situation de handicap, soit en pension d'invalidité par la sécurité sociale, soit en rente d'accident du travail. Donc ces personnes-là sont soit inscrites au Pôle emploi, soit sont salariées, travaillent, soit sont aussi travailleurs indépendants, non salariés. Autrement dit, ce sont des créateurs d'entreprises qui ont pu bénéficier d'une aide à la création d'entreprises de l'AGFIP. Donc les moyens dont nous disposons pour accompagner les personnes en compensation du handicap dans une situation de travail, c'est ou l'AGFIP qui finance pour le secteur privé, marchand les entreprises et non marchand les associations. Et ensuite, nous faisons appel au Fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, le FIPHFP, pour tous les agents de la fonction publique sur une situation de handicap et en risque d'inaptitude. Et donc, nous intervenons pour essayer de compenser le handicap en situation de travail. Pour cela, nous avons des aides financières et nous avons des partenaires. Nous avons donc un ensemble de partenaires qui a été déployé sur le territoire depuis une quinzaine d'années, comme Emergence PACA, comme Isatis, comme l'URAPEDA, comme le CRIADV, et qui interviennent en fonction des handicaps spécifiques. Le Cap Emploi est un organisme généraliste, spécialisé par rapport au Pôle Emploi. Nous sommes spécialisés sur des demandeurs d'emploi en situation de handicap, mais nous sommes généralistes parce que nous sommes en capacité d'accompagner tout type de handicap. Et en fonction de la spécificité du handicap, on peut faire appel à ces partenaires dont je vous ai parlé tout à l'heure. On travaille aussi bien avec des personnes qui présentent un profil de type autiste que des personnes qui ont des surdités lourdes, qui ont des déficiences visuelles, qui ont des troubles psychiques. Et notre objectif, c'est de les accompagner à rester en entreprise, à rester en emploi, quelle que soit sans durée d'accompagnement. Donc on est vraiment là inscrit dans une politique publique d'inclusion et développer une société plus inclusive. Ça s'est accentué depuis les années 2020. On est vraiment dans cette doctrine-là d'inclusion. Donc notre équipe est composée d'une quinzaine de collaborateurs, 4 personnes principalement sur l'accueil des demandeurs d'emploi, 2 personnes principalement sur la relation entreprise, 2 personnes sur le maintien dans l'emploi. Ensuite, on a des fonctions support, secrétariat. Le Cap Emploi applique à lui-même ce qu'on propose aux employeurs, de recruter des travailleurs handicapés. L'Institut Avenir Provence, qui est notre organisme gestionnaire, nous amène à et nous invite à faire des recrutements. Et donc, notre équipe est composée de 45% de personnes en situation de handicap. Donc, on est fortement concerné par la question que l'on est en train de développer sur le territoire. Et la mise en place d'actions nous concerne réellement. On est vraiment engagé dans cette démarche depuis au niveau de l'Institut Avenir Provence depuis 1994. Comme je vous disais, placer des personnes en situation de handicap dans les entreprises nécessite de connaître les personnes, de connaître les freins à l'emploi, mais aussi nécessite de mettre en place un réseau d'entreprises. Et donc, on travaille depuis une vingtaine d'années sur le territoire avec l'Union des entreprises, les différents présidents qui sont succédés et qui sont vraiment dans une démarche proactive d'handi accueillant. Donc, c'est vraiment, on est dans un département qui est très favorable à ces politiques publiques d'inclusion et d'emploi de la diversité. Donc, pendant la semaine de l'emploi des personnes situation de handicap qui a lieu du 20 au 24 novembre. Nous sommes en communication sur différents thèmes, donc aussi bien à Pôle emploi, aussi bien dans les entreprises comme la Savoie du Haut-de-Provence ou l'Occitane, qui sont vraiment des entreprises fer de lance de la politique publique d'inclusion. Nous sommes aussi en focus avec l'ensemble des acteurs du maintien dans l'emploi. Le 22 novembre, au restaurant La Braise, restaurant d'application de l'Institut Avenir Provence, avec les services de santé au travail, les services de la Caisse primaire d'assurance maladie, la mutualité sociale agricole, puisqu'on est un département qui est fortement concerné par l'agriculture et par le maintien dans l'emploi des exploitants agricoles en situation vraiment délicate de santé. Et donc, il y a un gros travail qui se mène avec une trentaine d'acteurs, d'opérateurs, le 22 novembre. Donc, ce n'est pas une conférence libre, c'est vraiment un séminaire de travail avec l'ensemble des acteurs. Une trentaine d'acteurs autour d'une même table pour travailler sur le qui fait quoi, quand et comment pour le maintien dans l'emploi en situation de personnes en situation de handicap. Nous avons des bureaux à Manosque au 548 boulevard Maréchal Juin, sous le restaurant La Braise qui est assez connu de la place locale. Et nous sommes dans les agences de Pôle emploi. N'hésitez pas à faire appel à nous.
Rémi Charpie, président de la mutualité française 0405, un événement le mardi 28 novembre.
Oui, bien sûr, on organise dans le cadre des mois de l'ESS une activité particulière, un événement autour de la santé au travail. La mutualité française sort tous les ans ce qu'on appelle un observatoire de la santé. Donc on a déjà fait un sur la santé mentale, sur l'accès aux soins et sur d'autres. Et là, cette année, il est lié à la santé au travail. Ça, c'est extrêmement important. Parce que pour nous, ça a des répercussions en termes de prévention aussi. Et puis de santé. Tout ce qui est maltraité au niveau de la santé, ça peut se retrouver après au niveau des mutuelles. Donc on se dit, ça vaut le coup de travailler sur la prévention. Et là, dans ce cadre-là, le 28 novembre, on organise donc une rencontre autour de 2 tables rondes. Une première table ronde qui va faire un constat sur ce qui se passe. Donc ça va être animé par François Derriot, qui est le rédacteur en chef de Santé et Travail, qui est autour de, dans la première table ronde, nous aurons donc un économiste qui s'appelle Thomas Coutreau, une ergonome qui s'appelle Corinne Godard, un ancien responsable syndical de la CGT qui s'appelle Alain Alphonlaire, qui vient d'écrire un livre sur la prévention du point de vue de ceux qui travaillent. Donc ça, c'est extrêmement important. Et un médecin du travail du Vaucluse qui a fait une étude sur les cancers liés à l'activité professionnelle. Donc eux, ils vont poser le décor en disant, c'est quoi la santé et le travail? Voilà les incidences. Et on va parler du sens du travail, de la pénibilité et du rythme du travail. Donc ça, c'est pour poser les éléments. Et puis ensuite, pour avancer en matière de prévention dans les entreprises, il faut dialoguer. Donc il faut qu'il y ait un dialogue entre les employeurs, les organisations syndicales, la CARSAT, la médecine du travail. Donc on a contacté l'UDE au niveau du département, qui a répondu favorablement. On a contacté l'ISMT, qui est donc l'organisation de la médecine du travail du 04, qui a dit oui, on est d'accord. Nous sommes allés rencontrer les organisations syndicales pour leur dire, voilà, on organise ça et on voudrait vous écouter, vous entendre, confronter les points de vue sur ce qui est possible de faire. Et puis quel dialogue on met en place pour les organisations syndicales. Donc trois nous ont répondu favorablement. D'autres, pour des questions de disponibilité, n'étaient pas là. Et on aura donc la CGT 04, Force ouvrière 04 et la FSU 04 qui participeront à cet événement. Et compte tenu du plateau que je viens d'indiquer, c'est un événement majeur.
Donc c'est ouvert à tous ?
Ah, c'est ouvert à tout le monde, bien sûr. Donc on peut le retrouver sur les sites de la mutualité. Ben, bien sûr, la radio maintenant qui en fait état aussi, on va le retrouver dans les journaux. Et bien sûr, il suffit de s'inscrire, voilà, d'aller sur le site, de cliquer et de s'inscrire.
D'aller sur le site de la Mutualité française ?
Voilà, d'aller sur le site de la Mutualité française, donc de l'Union régionale, parce que moi je représente l'Union régionale ici. Donc sur le site, il y a les différents événements. Et puis, il y aura peut-être l'occasion de contacter sa mutuelle, moi aussi, par exemple, parce que sa mutuelle, elle porte aussi le projet et elle pourra être en mesure de donner des événements plus concrets. Ou les organisations syndicales, bien entendu, qui participent. Pas seulement les organisations syndicales, l'UDE, l'ARS était aussi intéressé par la démarche. Là. Donc, on a plein de possibilités de pouvoir se renseigner pour participer et s'inscrire.
Donc ça se passe le mardi 28 novembre de 18h à 21h30, salle Osco-Manosco, donc à Manosque, 570 avenue du Moulin Neuf. Et pourquoi Manosque et pourquoi pas Digne aussi, ou est-ce que la même chose peut se produire ailleurs?
C'est-à-dire qu'on organise souvent les choses à Digne. Donc là, on se dit quand même faire quelque chose à Manosque, c'est pas inintéressant, d'autant que c'est aussi quand même économiquement le lieu le plus important. Et puis, il y a les infrastructures pour nous recevoir, il y a beaucoup d'entreprises qui sont là aussi autour. Bon, donc cette fois-ci, c'est Manosque. Le prochain coup, ça sera... On va le faire à Gap. Mais ça intéressera la santé des femmes cette fois-ci, l'année prochaine. On fait un événement par an comme ça, parce que c'est des événements qui demandent beaucoup d'investissement, beaucoup de travail, bon, puis qui sont un peu coûteux quand même. Donc voilà, il faut être raisonnable. Mais nous, l'important, c'est que les gens viennent, les entreprises viennent, les syndicalistes viennent, les mutualistes viennent, pour pouvoir justement dire la santé au travail, c'est très important.
Oui, d'autant plus qu'il y a de plus en plus de burn-out en ce moment dans toutes catégories de professions.
Ah ben oui, donc, ben c'est justement l'avantage d'inviter la médecine du travail au niveau local, puisque la Mutualité française, dans son observatoire de la santé au travail, qui peut être aussi accessible, hein, il suffit de taper observatoire de la santé au travail, Mutualité française, là il y a un document qui fait une synthèse de tout ce que présente la mutualité. Et elle s'est appuyée sur l'adresse, sur un certain nombre d'organisations scientifiques ou de directions nationales qui font de la compilation et qui mettent en avant, aujourd'hui, c'est la santé mentale au travail, c'est compliqué. Ça a beaucoup d'importance. Les troubles musculo-squelettiques, c'est la même chose, et bien d'autres. Donc, à partir de ces éléments, on va nous les confronter au local. Et là, la médecine du travail locale, elle a une observation locale de ces incidences qui se retrouvent à peu près du même niveau. C'est ce qu'on disait, la santé mentale, enfin, le burn-out, ça en fait partie. Il y a aussi d'autres éléments, hein, ce qu'on appelle régulièrement les facteurs de risque psychosociaux qui rentrent en ligne de compte. Donc ça, ce sont toutes des choses à travailler. La médecine du travail local pourra nous donner des éléments. Les employeurs nous diront ce qu'ils font, parce qu'ils ont des obligations en matière de résultats de santé et de sécurité. Les organisations syndicales qui sont là vont pouvoir dire, nous, voilà comment on voit les choses, voilà ce qu'on peut apporter. Donc c'est à la fois être critique et à la fois travailler ensemble pour pouvoir mettre en place une véritable prévention des entreprises. Pour ce qui est de la mutualité, on n'est pas un acteur social de l'entreprise, mais extérieurement, on peut apporter un certain nombre de volets de formation, de prévention, qui vont intéresser les facteurs de risque psychosociaux, la santé mentale, les gestes et postures, le dialogue que l'on peut mettre en place. Donc nous, on est porteurs de ça. Mais la clé, la solution, c'est bien ceux qui sont dans les entreprises, ceux qui vivent le travail, ceux qui le font, ceux qui l'organisent, ceux qui l'observent, qui peuvent discuter ensemble pour déterminer au mieux la meilleure prévention à mettre en place.
Daniel Simonato, je suis délégué régional à l'Union régionale des sociétés coopératives PACA et Corse.
En quelques mots, ça veut dire quoi ?
Ça veut dire accompagner les sociétés coopératives type SCOP ou SIC sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et donc sur le département Corse dans le cadre de la création, de leur développement et du rebond. Parce que des fois, ben, par exemple pendant le Covid, il y a eu des sociétés qui sont complètement arrêtées et donc on a créé carrément un fonds de financement qui a permis aux sociétés de passer en trésorerie ces mois d'inactivité.
Donc on fait appel à vous en cas de problème pour relancer.
Alors ça c'est la partie la moins agréable et c'est surtout pendant le Covid que ça s'est passé. On fait surtout appel à nous pour créer donc des sociétés coopératives. Très souvent c'est des collectifs, soit en forme associative, soit des copains d'enfants, soit des gens qui connaissent des nouveaux modes de gouvernance, la gouvernance démocratique des entreprises, qui viennent nous voir et qui nous disent on veut créer une SCOP, par contre on ne sait pas par quel bout commencer et donc on les accompagne de alors la maturation de l'idée, voire du projet, jusqu'à la partie juridique et financement.
Est-ce qu'on peut préciser ce que ça veut dire une SCOP ?
Alors, une société coopérative, la principale particularité, c'est que la gouvernance est démocratique. C'est-à-dire que ce sont les salariés qui détiennent la majorité du capital de l'entreprise et ce sont les salariés qui décident de qui va être le gérant ou les co-gérants de l'entreprise. Donc on n'est pas sur un format capitalistique classique, on est sur un format coopératif avec très souvent des gens qui ont plus ou moins les mêmes parts sociales dans l'entreprise. Ça reste quand même des sociétés SARL ou SA qui fonctionnent comme des entreprises, mais qui ont ce fonctionnement, cette gouvernance démocratique qui permet de prendre des décisions non plus avec un patron comme on disait à l'époque, mais plutôt en collectif avec des gérants qui sont obligés d'être là parce qu'il faut bien une personne pour représenter l'entreprise, mais avec beaucoup plus de sollicitations des salariés et de prise d'initiative des salariés.
Justement, aujourd'hui, donc, il y a eu une SIC qui a été récompensée. C'est Copilote ta vie. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette SCOP ?
Oui. Alors, c'est une société coopérative d'intérêt collectif. Ça ressemble beaucoup aux sociétés coopératives classiques, sauf qu'elles ont un lien plus fort avec leur territoire. Elles sont très souvent mises en œuvre ou créées ou co-créées avec les collectivités locales, assez souvent. Elles ont un intérêt collectif, c'est-à-dire que, comme on est au salon de l'ESS, elles sont obligées d'avoir dans leur statut d'écrire concrètement quel est l'intérêt pour le territoire, pour la collectivité sur laquelle elles opèrent. Alors qu'une société coopérative classique, elle peut être marchand épicier par exemple, elle n'a pas d'intérêt collectif particulier. Alors que là, dans la SIC, on a vraiment cet intérêt collectif qui prévaut. Et pour revenir sur Copilote ta vie, pour nous en tout cas, c'est une des plus belles SCOP SIC en tout cas de la région, puisque ça a été donc la création d'un lieu qui accueille des personnes en situation de handicap, plus ou moins fort, dans le cadre d'une colocation. C'est-à-dire que ce sont trois personnes en situation de handicap qui se sont mises autour d'une table, on va dire, alors pas toutes seules évidemment, mais qui se sont dit pourquoi est-ce qu'on ne vivrait pas nous aussi comme les autres et pourquoi pas en colocation. Donc en fait, elles ont à la fois cette partie intimité, qu'est-ce qui fait que j'ai ma chambre, j'ai ma pièce à moi, etc. Et en même temps, je suis sécurisé parce que j'ai tous les accompagnants qui viennent en fait dans cette maison de vie, dans ce lieu de vie. Et il faut voir aussi un aspect très important, c'est que ça permet aux aidants, aux accompagnants de la famille de souffler aussi beaucoup par rapport à des personnes qui sont restées dans leur famille. Donc on aimerait bien que le modèle se développe beaucoup plus, parce que là on peut imaginer qu'on accompagnerait ce modèle à se diffuser sur d'autres départements, d'autres villes, etc. Parce que des personnes en situation de handicap plus ou moins lourd, il y en a quand même beaucoup en France.
Vous les avez accompagnés aussi ?
Alors, moi, je ne suis pas arrivé il y a très longtemps, donc je ne me permettrai pas de dire que je les ai accompagnés, mais l'Union régionale les a accompagnés sur les statuts, sur la partie juridique et je crois aussi sur la partie financement, mais je ne veux pas dire de bêtises, il faudra que je le vérifie dans un deuxième temps.
Nadège Gatonou, directrice d'exploitation et responsable de projet de la SIC Étoile du Verdon. Si vous voulez bien présenter ce qu'est Étoile du Verdon.
La SIC Étoile du Verdon, c'est une société collective d'intérêt commun donc qui a pour objectif de redynamiser de façon pérenne la vallée du Haut-Verdon. Et donc, on est installé à Alos, dans le 04, et on a deux centres d'hébergement qu'on exploite. Et la particularité de la SIC, il y a la mairie du Val d'Alos, qui est membre de la SIC, et plusieurs autres socioprofessionnels, des gens qui proposent des activités en été comme hiver, l'école de ski, les vélos, les accompagnateurs montagne, les moniteurs, etc. L'objectif, c'est d'utiliser toutes les ressources qu'on a dans la vallée pour de façon durable et pour en faire aussi profiter à ceux qu'on accueille, notamment au sein des deux centres d'hébergement qu'on a, Rochecline et Sainte-Brigitte. Rochecline qui est plutôt pour des groupes et des familles. On accueille en majorité des enfants qui viennent des quartiers difficiles, des grandes villes et des personnes qui n'ont pas forcément les moyens de partir en vacances. L'objectif, c'est vraiment, si nous n'existions pas, il n'y aurait pas des personnes qui viendraient en montagne pendant l'hiver ou profiter de la montagne pendant l'été. On est ouvert toute l'année, été comme hiver. Donc, quand il y a de la neige, les activités liées à la neige. Et en été, on a aussi d'autres ressources dans la vallée, notamment le lac, la base nautique, etc., qui ouvre pendant l'été. Il y a plein d'activités qui sont proposées pendant les séjours sur toute la vallée. Je peux vous citer le vélo, la randonnée, l'acrobranche, le tir à l'arc. On a plusieurs activités, le centre équestre aussi, avec les chevaux. Et là, on est sur aussi un projet de ruche-école où on va monter avec un partenaire de la SIC, l'EDEP, une ruche en partenariat avec l'Office du tourisme, la mairie, etc., pour pouvoir faire des projets pédagogiques autour du miel et des trajets. On a aussi des projets pour le pastorando en saison ou pour quand il y a des bergers qui partent avec les brebis, etc. Il y a des circuits, des séjours qui sont aussi proposés dans ce sens-là. Il y a plusieurs activités qui sont proposées été comme hiver.
Le nombre de salariés peut-être de la structure ?
Il faut savoir que l'objectif, c'est vraiment, comme je le disais, de faire vivre la vallée. En saison, on est à peu près 22 salariés. Et hors saison, on est quand même plus d'une dizaine en CDI. Et ce qui est aussi qui est un apport qui n'est pas du tout négligé dans la vallée de ce parce que après la saison, les saisons sont courtes, surtout la saison d'hiver elle est très courte et les jeunes partent ensuite travailler sur la côte, etc. Alors que là, on offre la possibilité aussi d'être dans la vallée dans un lieu qu'on aime toute l'année. C'est aussi un mode de gestion participatif, très très participatif, où l'humain est vraiment au centre de la gestion et du quotidien des établissements. Et ça se sent par l'ambiance aussi au travail et tout ce qu'il y a autour.
Alors vous parlez d'une cuisine familiale et adaptée, qu'est-ce que ça veut dire ?
La cuisine familiale, il faudrait savoir qu'on venait en cuisine. On ne fait pas malheureusement comme aujourd'hui de l'assemblage. On prend des patates juste à côté à Clignon, chez un paysan du coin. On prend de la viande par exemple à Hanotte. On prend des fruits et légumes dans la vallée. On travaille beaucoup selon les saisons, selon ce qu'on a en fruits et légumes. Et on a trois slogans, trois mots d'ordre quand on arrive... Chez nous, c'est bon coin, bonne bouffe et bon copain. Donc, on essaye de respecter vraiment ces trois mots d'ordre depuis la réservation jusqu'au départ de nos résidents.
Il y a un site ?
Oui, www.étoileduverdon.com.
Jean Tripodi, président de l'association Cœur Lavande.
Annette Tamietti, secrétaire de l'association Cœur Lavande.
Et Christine Bonnet, éducatrice, membre du conseil d'administration de Cœur Lavande.
Cœur Lavande sur son stand. Pourquoi votre présence aujourd'hui au Palais des Congrès?
Eh bien parce qu'on fait partie de l'économie sociale et solidaire depuis 2 ans. Nous sommes aussi membres de la délégation de la CRESPACA 04. On fait partie des membres fondateurs. C'est important pour nous d'être dans cette manifestation en termes de visibilité puis en termes de conviction aussi sur tout ce qui se passe autour de l'économie sociale et solidaire.
Nous sommes prêts à répondre aux questions, notamment sur le projet que nous mettons en œuvre actuellement, qui est la création de la maison Cœur Lavande. C'est une maison dédiée aux aidants ainsi qu'aux personnes en situation de fragilité. Les personnes âgées, en perte d'autonomie, en situation de handicap, atteintes de pathologies sévères et ou chroniques. Cœur Lavande se donne justement pour mission la préservation de la santé et le développement du lien social, notamment en luttant contre l'isolement dont souffrent ces publics. Pour cela, elle veut rassembler, croiser les publics et encourager le bénévolat afin de favoriser le vivre ensemble. Donc nous nous proposons dans ce lieu d'accueil qui se veut convivial et chaleureux, de proposer donc d'informer, de renseigner, de conseiller, d'accompagner dans les démarches, d'orienter vers les institutions et structures partenaires. Nous avons pour ambition de favoriser le bien vieillir et soutenir les proches aidants. Nous souhaitons organiser des ateliers variés sur des thèmes comme la nutrition, le sommeil, la mémoire, le bien-être, la prévention des chutes, la formation au numérique, des ateliers d'écriture, la création d'une sonothèque. Ces ateliers, nous les voulons comme point de départ de relations humaines, faire en sorte que les gens présents au sein de nos locaux puissent également se rendre service mutuellement, que ce soit pour des courses, que ce soit pour aller au cinéma, en débattre après, etc. Mais c'est créer du lien social que nous voulons. Notre projet est ambitieux parce qu'une fois qu'on aura mobilisé les Dinois, nous voulons aller vers les gens de Provence-Alpes agglomération, c'est-à-dire que nous voulons nous équiper de véhicules et de travailler avec les maires des 35 communes de l'agglomération pour exporter nos ateliers dans les villages. Tout le monde ne peut pas se déplacer, donc nous souhaitons aller à la rencontre des personnes qui sont isolées dans les villages. Voilà.
Cœur Lavande, ce sont des bénévoles qui font des tas d'actions. Pourquoi ce bénévolat? Pourquoi cette volonté comme ça d'apporter?
Je crois que déjà, le bénévolat, il doit être en nous. Soit on l'a, soit on l'a pas. Et puis, je crois qu'il y a aussi des besoins et que effectivement, on a envie, avec l'équipe, de s'engager pour le bien des autres. On a la chance, nous, d'être en bonne santé, de pouvoir avoir le corps qui fonctionne. Et il y a des gens qui n'ont pas cette chance-là. Donc, l'idée, c'est aussi de pouvoir donner du temps, donner de l'énergie, donner ce son savoir-faire pour la mission. Et cette mission, c'est aller à la rencontre des autres et d'aider le mieux possible son prochain.
Ça fait combien de temps que vous êtes à la tête de Cœur Lavande?
Eh bien, depuis le départ, parce que c'est moi qui l'ai créé en 2007. Donc voilà, je suis depuis presque 16 ans maintenant.
Josiane Priam, présidente du comité départemental 04 de la Ligue contre le cancer, dont le siège est situé Chemin des Alpilles à Digne-les-Bains. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste cette Ligue?
Oui, bonjour. Il y a un comité pour chaque département et nous sommes affiliés à la Fédération de la Ligue nationale contre le cancer. La Ligue nationale nous fixe des missions. Il y a la recherche, donc nous finançons, nous, une équipe de l'Institut Paoli Calmette, puisque nous n'avons pas d'équipe de recherche dans le département. Nous faisons de la prévention, les dépistages organisés, plus des actions pour le soleil et pour l'alimentation dans les écoles et les lycées, le tabac dans les lycées et les collèges. La troisième mission, c'est accompagner pour aider. C'est celle dans laquelle nous investissons le plus de temps et le plus d'argent. C'est pour aider toutes les personnes qui sont en soins ou qui ont eu la maladie depuis peu de temps. Nous leur proposons des soins de support qui ont lieu à Digne et à Pépin. Nous avons un programme précis, des prestataires diplômés. C'est gratuit, absolument gratuit pour tous les patients qui habitent le département, quel que soit le lieu où leurs soins leur sont prodigués. J'insiste. Nous donnons aussi des secours financiers. Nous avons une commission sociale qui travaille sur des dossiers que nous envoient les assistantes sociales pour des familles que la maladie a précarisées financièrement. Nous aidons aussi au retour à l'emploi Alors, ce n'est pas nous qui faisons le nécessaire. Nous avons pour ça Ergologique qui nous donne, on leur transmet le dossier et ils travaillent pour nous. Nous avons aussi, depuis peu de temps, l'association qui s'appelle CAIRE, C-A-I-R-E, qui est sur Manosque, qui a été mise en place par la médecine du travail. Elle fait à peu près la même chose qu'Ergologique, c'est-à-dire qu'elle aide les malades pour les professions libérales. Voilà. Nous vivons uniquement de dons et nous cherchons des bénévoles. Je crois que je vous ai tout dit. Je vous donne le numéro de téléphone 04 88 24 00 46. Si vous tombez sur le répondeur, c'est pas grave, c'est que nous sommes sur le terrain, comme moi aujourd'hui. Vous laissez un message, on vous rappelle.
Quand vous demandez des bénévoles, c'est pour quelle mission ?
Alors, le bénévole vient. D'abord, il nous accompagne dans certaines manifestations. Il peut nous aider dans les travaux administratifs. Le bénévole va choisir la mission qui lui convient le mieux. Ça peut aller jusque l'aide aux malades. Ça peut aller à l'administratif. Ça peut aller à toutes sortes de choses. Quand la personne aura fait un ou deux mois avec nous, il sera formé par Visio, par la Ligue nationale, qui a une école de formation. Il sera formé, il y aura deux formations, accompagner les malades et connaître la Ligue contre le cancer. Et ensuite, il va choisir une mission. Alors, il y a des missions qui ne sont pas encore développées, mais qui devraient l'être. C'est développer les partenariats avec les entreprises, avec les pharmacies. Voilà, c'est des choses comme ça. Nous allons nous y atteler.
Donc, vous vivez de dons, il y a aussi des adhésions, par exemple.
Ben oui, les adhésions, c'est 8 euros l'adhésion pour l'année. Alors, ça nous réconforte parce que nous sommes jugés sur le nombre d'adhérents, bien sûr. Mais nous vivons surtout de dons. Certaines mairies nous donnent des subventions. Nous faisons en début d'année une demande de subvention à chaque mairie. On va dire qu'il y en a 40 qui répondent positivement sur 198. Voilà. Et puis nous faisons des manifestations qui ont toujours un côté ludique et là, on récolte un peu d'argent.
Alors, on va revenir sur, là vous avez affiché donc quelques animations possibles sur Digne et sur Pépin. De quoi il s'agit ?
Alors, il y a des groupes de parole encadrés par un psychologue diplômé en oncologie. Tous nos prestataires sont diplômés en oncologie, hein, donc je ne vais pas le répéter à chaque fois, ce sera usant. Donc, groupes de parole, des entretiens psychologiques individuels, des soins esthétiques. Alors, les soins esthétiques, ce n'est pas du maquillage, hein, c'est des massages. Tout ce qui peut être réconforté et que les traitements ont abîmé. Il y a de la réflexologie, de la sophrologie, de l'art créatif, du théâtre. Je vais certainement en oublier parce qu'on développe petit à petit. Là, on va mettre en place dès janvier, je pense, sur Digne, dans un premier temps, un atelier coiffure qui va aider aux personnes qui n'ont plus de cheveux et dont les cheveux repoussent. Je m'excuse, c'est un peu cru, mais c'est comme ça. Et puis toutes les personnes qui veulent se préparer à une chute éventuelle. Quand le diagnostic tombe et qu'on leur dit vous allez avoir une chimio qui va vous faire tomber les cheveux, on peut les préparer, c'est-à-dire faire tout ce qu'il faut pour que les cheveux ne tombent pas mais soient coupés avant et puis leur conseiller une perruque.
Alors, est-ce que vous faites partie, pour ces soins, les personnes se dirigent où ? Est-ce que ça fait partie de l'hôpital, l'espace non. C'est encore autre.
Les soins de support sont dorénavant, nous ont suivis, si j'ose dire. C'est les seuls que nous finançons, mais nous continuons à les financer. Ils nous ont suivis. On a mis dans notre nouveau local une grande pièce. Il y a un salon esthétique qui est indépendant. Tout est fait pour recevoir les malades.
Excusez-moi, mais le lieu qui existait à l'hôpital n'existe plus ?
Alors, je pense qu'il existe encore parce que, comment vous dire, le lieu qui était à l'hôpital ne nous concerne plus, voilà. Ça perturbe un peu certains patients qui nous disent « Ah, on ne sait pas où il faut aller ». Ça perturbe beaucoup. Je pense qu'une mise au point sera faite d'ici la fin de l'année. Nous avons demandé pour se faire un rendez-vous auprès du directeur de l'hôpital de Digne. Et je ferai certainement une conférence de presse d'ici la fin de l'année pour que les choses soient dites, sinon écrites, quoi. Voilà. Parce qu'on a quelques problèmes de ce côté-là. On peut pas le nier.
Pour avoir droit aux soins, il faut venir chemin des Alpilles.
C'est ça. Il faut d'abord, de toute façon, avant de prendre la décision d'aller à un soin, on vient rendre visite à la Ligue. Nathalie Bourriel, notre coordinatrice, reçoit la personne, lui explique exactement les heures, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. On lui explique que ce sera gratuit. Il faut absolument passer par la Ligue. Pourquoi on vous oblige à passer par la Ligue ? Parce que ce faisant, Nathalie explique tout ce dont vous pouvez avoir besoin et qu'on peut vous offrir. Voilà.
Est-ce que cet emploi du temps, on le retrouve sur un site ?
On le retrouve sur le site de la Ligue qui est www.ligue-du-6-cancer-04.fr.
Donc moi je suis Gérard Baumel, le maire de la commune de Serest en Luberon.
Gérard Baumel, une distinction qui vous va droit au cœur, vos impressions?
Oui, alors c'est formidable. C'est vrai qu'on ne s'y attendait pas à recevoir cette distinction départementale et régionale. C'est une très bonne nouvelle. J'en suis très fier et très heureux pour notre commune. Et c'est vrai que ça répond aux attentes de nos habitants qui enfin vont pouvoir avoir une résidence intergénérationnelle pour beaucoup de personnes âgées qui se retrouvent seules. C'est formidable pour elle. Et c'est vrai qu'il y aura une animation, il y aura une maison partagée, il y aura des actions qui vont être faites avec les associations locales, le CRS, mais aussi du bassin de vie. Il y a beaucoup de choses qui vont se faire, aussi en lien avec notre école communale qui est à proximité, le jardin partagé, des animations durant toute la semaine, ce qui fait que tous ces gens-là vont pouvoir vivre dans de très très bonnes conditions, avec des bâtiments qui sont vraiment aux normes, même au-delà des normes obligatoires. Tout le monde est vraiment ravi. Donc on a fait de nombreuses réunions pendant de nombreuses années. J'avais promis qu'on y arriverait. Et non seulement on y arrive, mais en plus on est récompensé aujourd'hui. Donc j'en suis vraiment très fier et très heureux. C'est formidable.
Gérard Baumel, pourquoi cette volonté de s'investir? Vous avez été un des précurseurs également avec cette volonté.
Oui, bah vous savez, moi j'ai toujours aimé anticiper les choses, toujours réfléchir à des nouveaux projets, toujours essayer de monter les choses, même si au départ on me dit ça se fera jamais. Eh bien moi je suis quelqu'un qui va jusqu'au bout et j'ai fait d'autres projets comme ça depuis que je suis élu maire. Et c'est vrai que j'ai la volonté toujours d'arriver au bout de ce que je propose. Et puis on s'aperçoit que finalement quand on a la volonté on y arrive et que tout le monde est ravi et content finalement de pouvoir bénéficier de services nouveaux, de pouvoir bénéficier de cette résidence, de pouvoir bénéficier. Il y a encore d'autres choses puisque j'ai un projet derrière de tiers-lieu culturel qui va aussi, je pense, démarrer. Et voilà, il y a plein de possibilités quand on a la volonté et puis de trouver surtout des partenaires. C'est une petite commune, c'est 1200 habitants et on n'a pas des sommes énormes dans le budget. Mais quand on veut et qu'on trouve des partenaires, comme je l'ai fait là pour cette résidence, avec Unicil, avec Sorénis, avec Alotra, avec beaucoup de partenaires, eh bien on y arrive et puis finalement, pour la commune, c'est des choses qui sont tout à fait jouables au niveau financier. Je crois que c'est ça qui est l'important pour les petites communes. Et c'est donc un projet exemplaire que je pense est reproductible. J'ai déjà des demandes de communes, de collègues qui me disent « Mais comment on peut faire? Comment t'y arriver ?» Ben, je leur explique. Et puis, et à ce moment-là, je leur dis « Il faut y aller. » Et puis, les partenaires que j'ai autour de moi me disent ben, « On va organiser des réunions avec ceux qui vous le demandent. Et puis, on va essayer de monter aussi des projets. » Parce que si ça marche à Serest, ça marchera forcément ailleurs. Voilà.
Je m'appelle Chantal Verrouille. Je suis présidente de l'association La Fontaine de l'Ours, qui est aussi le nom de la structure d'accueil de classes et de groupes qui veulent faire de la musique, tout en, je dirais, profiter d'un environnement particulièrement beau dans la vallée du Bess, dans le petit village d'Ozé.
Donc qu'est-ce qui s'y passe à cette fontaine de l'Ours alors ?
C'est un centre d'accueil pour essentiellement les classes vertes, entre guillemets, mais qui peuvent être rousses, qui peuvent être blanches, les classes, on va dire, tout au long de l'année, qui font un projet centré sur la musique, puisque dans la structure du bâtiment, il y a au dernier étage une grande salle de musique avec un instrumentarium assez exceptionnel. Et interviennent durant la semaine des animateurs musique, des animateurs nature. Et le projet est que les classes repartent avec un enregistrement de ce que les enfants auront fait en matière de musique, en s'imprégnant de tout ce qu'ils auront reçus comme environnement sonore durant leur balade nature. Et à côté de ça, on reçoit aussi des groupes d'adultes, d'ados qui viennent sur des week-ends, soit pour faire de la musique aussi, mais aussi pour faire de la découverte nature, du parc géologique, voilà.
Alors c'est une structure qui existe depuis très longtemps.
Oui, 1997. C'est une structure qui est née de la volonté conjointe du maire de l'époque, Roger Ouzoard, qui voulait, pour maintenir de l'emploi sur sa commune, une activité des jeunes, des familles avec enfants, et qui a rencontré, je dirais, la volonté à l'époque de la direction de la Fédération des centres musicaux ruraux, leur volonté d'installer des centres d'accueil de classes tout au long de l'année et aussi de colonies musicales durant l'été. Et c'est vrai que depuis 1997, les choses, le projet, disons, est toujours le même. Il a été élaboré par Jean-Luc Bourrel, qui en a été le premier directeur et qui est resté jusqu'en 2012, et même plus tard d'ailleurs. Enfin bon, voilà, très longtemps en poste. Le projet est toujours le même, mais effectivement, au niveau du centre, on a su adjoindre, je vais dire, des labels, en particulier l'accès pour le handicap, pour les personnes à mobilité réduite, pour les autres handicaps visuels et auditifs. On a obtenu le label concernant la cuisine, qui est une cuisine centrée sur des produits locaux, éthiques. Voilà, des plus, je dirais, des plus centrés vraiment sur l'intégration de plus en plus grande dans l'environnement économique et social de cette petite vallée.
Est-ce que ça fonctionne toute l'année ?
Oui, on est un centre qui est ouvert toute l'année. L'été, on accueille des colonies. On est nous-mêmes, je dirais, bâtisseurs de projets de colonies l'été, en particulier des colonies musicales. Mais on accueille aussi d'autres groupes et en particulier des accueils collectifs de mineurs qui viennent de quartiers défavorisés du département, mais aussi plus largement de la région, que ce soit Marseille ou que ce soit Nice, voilà, ce côté-là. Mais on fonctionne toute l'année, oui. Toute l'année avec une équipe qui est, dont les salariés sont embauchés en CDI.
Et combien de salariés pour la structure ?
Alors, on travaille en équipe fixe avec une dizaine de salariés. Bon, pas tous des temps complets, hein. Et puis, en fonction des classes qui sont hébergées, des colonies de vacances et tout, c'est le recrutement de personnel qui peut porter l'effectif jusqu'à 14, 15, 16, durant des périodes beaucoup plus courtes. Un cuisinier qui a travaillé pour la restauration privée en tant que seconde cuisine et qui a trouvé, je dirais, ses marques dans cette cuisine de collectivité, qui s'est complètement fait sien le projet de l'association de travailler avec des producteurs locaux sur des produits locaux, bio, et d'ouvrir aussi le public à des plats et des légumes en particulier peu consommés, par en particulier un public jeune, et qui leur présente les produits qu'ils cuisinent, enfin a une relation durant la semaine, une relation de proximité grande avec les enfants. Ils les sensibilisent au gaspillage, voilà, ils peuvent se resservir, mais dans un premier temps on ne prend que pour goûter, enfin. Et des producteurs locaux, ouais, les producteurs sont vraiment du coin.
Quels sont vos partenaires ?
Le premier partenaire, c'est la Fédération des centres musicaux ruraux, qui est une fédération d'éducation populaire qui est née en 1947 dans la mouvance des associations d'éducation populaire de l'après-guerre. Ça, c'est notre partenaire et qui est aussi propriétaire des locaux. C'est avec cette fédération que le maire a fait ce partenariat pour l'implantation du centre à la fin des années 90. Et notre deuxième partenaire le plus important, c'est la Ligue de l'enseignement des Alpes de Haute-Provence. Mais aussi l'association départementale des CMR, qui est aussi un appui en notre structure.
Aujourd'hui, vous êtes présente pour les assises de l'économie sociale et solidaire. En quoi votre structure fait partie de l'économie sociale et solidaire ?
D'abord, elle fait partie de l'économie, du tissu économique local, d'une vallée qui est quand même une toute petite vallée, pratiquement une vallée cul-de-sac, hein, puisque c'est la vallée du Besse qui, par le col du Fanger, débouche sur Auzé, mais qui n'est pas une route praticable. Donc. Deuxièmement, sociale, parce que notre projet, c'est de permettre à des enfants, mais aussi au-delà des groupes en particulier d'associations qui gèrent l'accueil collectif de mineurs, de leur faire découvrir un environnement autre à des tarifs qui défient toute concurrence. On n'est pas une association qui visant les bénéfices et les profits. Et solidaire parce qu'on est vraiment tourné vers des publics scolaires, qui peuvent être aussi des publics universitaires, hein, puisqu'on accueille l'université de Jussieu qui vient sur le parc géologique. Je dirais des publics qui sont des publics en difficulté. Alors actuellement, par exemple, on continue de travailler, mais le partenariat dure depuis plus de 20 ans, avec des associations d'handicapés, Chemin d'Espoir. Chemin d'Espoir qui vient tous les étés faire son séjour, je dirais, de répit pour les aidants. Et également, on a longtemps reçu, tant qu'il y avait sur place le couple Sylvie et Jean-Luc Bourrel, des familles d'enfants ou des groupes d'enfants autistes qui venaient retrouver un équilibre à travers la musique. Et puis des groupes, on va dire, socialement défavorisés, pour leur permettre d'avoir accès à un environnement de qualité et inhabituel, évidemment. Hein, beaucoup de publics qui viennent de quartiers urbains marseillais ou niçois. Et accès à une autre cuisine, à une ouverture, à un autre mode de vie. Et dans la dimension sociale, il y a aussi le fait que tous les salariés de l'équipe de La Fontaine proviennent ou de cette vallée, ou du pays de Seine, ou des petites communes de la vallée du Besse, alentour. Et ça, c'est un paramètre important, maintenir une population active, jeune, avec des enfants, qui permettent de maintenir les écoles ouvertes, soutien du tissu économique local.
C'est une route qui n'est pas forcément facile d'accès. Il y a eu beaucoup de chutes de pierres en fonction des intempéries, des grosses pluies, de la neige, du dégel.
Ça, c'est vrai. Hein, on est vraiment implanté dans un bout du monde, on va dire. Bon, ce qui est aussi le gage de la qualité de l'environnement et du dépaysement total pour des groupes qui viennent de quartiers urbains, par exemple. Hein. Il y a toujours un temps d'adaptation nécessaire. Alors, c'est vrai, hein, c'est une route qui est difficile. Mais il n'empêche qu'on maintient toute l'année. Toute l'année, il y a des classes qui viennent et on a toujours réussi à négocier avec la DDE, l'ouverture pour le passage des cars. Voilà, la route est dégagée. Je dirais en ayant comme appui, évidemment, le maire d'Auzé, hein, la mairie d'Auzé qui nous appuie pour que cet accès soit toujours libre. Et puis l'intérêt de cette route qui est effectivement souvent, je dirais, perturbé par les intempéries, c'est quand même qu'en hiver, on a une belle cascade gelée à admirer. Le saut de la Pie, c'est quand même quelque chose d'unique.
Il y a un site où on peut retrouver les informations.
Oui, il y a le site de la Fontaine de l'Ours. Et on a aussi les moyens, je dirais, de communication moderne, Facebook, sur lesquels les familles en particulier ont toutes les infos au jour le jour quand les enfants viennent faire un séjour.
Et enfin, un micro-trottoir.
Qu'est-ce que vous pensez d'une journée comme celle-ci ?
C'est nécessaire, c'est utile et c'est indispensable. Je vais plus loin parce que les gens se connaissent entre eux et ils ont besoin justement d'avoir des réseaux qui les dynamisent, tout simplement.
Et est-ce que vous avez trouvé ce que vous cherchez ?
Moi, je cherche des informations pour pouvoir les donner à des personnes qui en ont besoin et leur dire, il y a telle solution à tel endroit, allez voir, renseignez-vous. Et comme les gens sont très gentils, c'est parfait. L'accueil est bien fait, c'est bien conçu, c'est bien aménagé, donc c'est parfait.
Pourquoi être présent aux assises de l'ESS ?
Nous sommes étudiants de l'IUT de Gaco, enfin BUT Gaco à Digne-les-Bains. Du coup, on a été surtout drivé par notre prof qui nous a demandé de venir et du coup on reste ici pour voir ce que c'est que l'économie sociale et solidaire, pour connaître des acteurs qui en font partie et en fait échanger des informations pour mieux comprendre et savoir ce qu'ils font exactement.
Qu'est-ce que vous pensez d'une journée comme ça ?
Après moi c'est vraiment bien parce que je me suis surtout concentrée sur la réinsertion des jeunes et voir leur parcours, la mise en relation des jeunes et des entreprises. Donc je trouve ça super intéressant et en fait découvrir qu'il y a plein d'acteurs auxquels moi par exemple étudiante je peux connaître plus tard et utiliser. Du coup moi j'ai trouvé ça super intéressant de mon côté, surtout pour du prince personnel, c'est bien. C'est utile, enfin pour ce côté-là, pour mon point de vue personnel.
Qu'est-ce que je pense de cette journée ? Que c'est toujours intéressant d'avoir un temps où l'ensemble des acteurs de l'ESS peuvent se retrouver, notamment à l'échelle du département. Il y a eu différents temps qui sont faits et qui permettent des rencontres. À ce niveau-là, c'est très intéressant. Après, là, je vois une petite difficulté sur l'après-midi pour pouvoir être à la fois sur les stands et sur les conférences où il est difficile de se dupliquer. Mais en termes de rencontres et de connaissances apportées, ça c'est très intéressant.
C'est la première fois que vous venez sur ce type d'événement ?
Oh non, je suis un professionnel de ce type d'événement. Je viens régulièrement sur des salons, sur des forums, sur des assises sectoriels ou territoriaux pour justement pouvoir rencontrer l'ensemble des acteurs concernés par la thématique.
Et vous en repartez satisfait ?
En général, oui. Et je pense que ça sera le cas aussi ce soir, notamment pour les quelques rencontres que j'ai pu, nouvelles rencontres que j'ai pu avoir, et les connaissances que j'ai pu renforcer par ma présence aujourd'hui.